Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde? Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en 5 minutes.
Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, attentat au Métropolis. La police est blâmée et 4 techniciens sont indemnisés. Une infirmière suspendue pour avoir mangé une toast au beurre d'arachide. Demande de libération, André Boisclair échoue une nouvelle fois et les survivants de la tuerie d'Uvalde poursuivent.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24
minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, l'attentat du Métropolis, là, du 4 septembre 2012, a marqué les esprits, les mémoires ici au Québec. Mais c'est surtout que plusieurs années après, on a finalement un tribunal qui s'est penché et qui a condamné la police et indemnisé 4 techniciens de scène qui étaient sur place lorsque Richard Henry Bain a ouvert le feu. On dit que c'est et le SPVM et la Sûreté du Québec qui assuraient la sécurité ce soir-là, lorsque, on se rappellera, Pauline Marois était venue prononcer un discours suite à la victoire électorale et qu'on avait tenté de la tirer. Deux hommes avaient été touchés, dont le technicien Denis Blanchette, qui était malheureusement décédé, le technicien Dave Courage, lui qui avait survécu à ses blessures. Il y a 4 techniciens également qui ont été sur place, qui étaient témoins de la scène, qui eux ont allégué avoir subi de nombreux préjudices, des stress post-traumatiques entre autres, problèmes de consommation et autres, et eux avaient tenté une poursuite contre l'SPVM et la SQ et réclamaient 600 000 $ donc de dommages, et ça verrait 70 000 $ chacun qu'ils vont obtenir. Donc Dave Courage qui avait été blessé et donc
et lui, et Dave Courage avait poursuivi, avait eu une entente hors cours, donc on n'a jamais eu les détails. Lui, son dossier avait fait l'objet d'une entente hors cours.
Non, c'est Guillaume Parisien, Audrey Dulong-Bérubé et Jonathan Dubé, ainsi que Gaël Guirignelli, qui reçoivent tout un chacun là, environ 70 000 $ à titre de dommages non pécuniaires. Et ce qui est intéressant, c'est que en ce qui traite de la SQ et du SPVM, c'est pas un agent ou une agente particulier qu'on va blâmer, mais bien les corps de police dans leur ensemble.
Non, avec raison. Là. Ouais. C'est pas une faute individuelle policière. Là. C'est un travail... Qui était pas à la hauteur de ce qu'on attendait. En fait, on peut pas imaginer que là où la première ministre, tout fraîchement élue, était à faire son discours, et même la porte où Baines est rentré, on dit que c'est la porte, c'est comme la porte de sécurité où Mme Marois aurait dû sortir en cas d'urgence, etc. T'as toujours la petite porte dans l'arrière. Alors comment la porte qui est supposée être ta sécurité de sortie n'est pas gardée? D'aucune façon.
C'est un mystère complet.
De toute façon, comment quelqu'un peut se promener à tort et à travers, armé, en robe de chambre accessoirement, mais armé, dans les environs immédiats ou dans la cour d'un édifice où se tient le rassemblement électoral de la victoire de la nouvelle première ministre élue? C'était un fiasco. Bon, je suis tant mieux pour ces techniciens de scène. C'est tout à fait correct qu'ils soient dédommagés. Et je suis de tout cœur avec eux. Maintenant, pour la collectivité québécoise, l'enjeu est plus gros. L'enjeu, c'est comment il se fait que ce soit, que le jugement qui est porté sur le travail policier le soit dans une cause civile, dans le cadre d'une poursuite en dommages, là, une cause civile. Question. Il me semble que cette évaluation du travail policier aurait dû être faite carrément dans le cadre d'une enquête publique, peu importe la forme de commission d'enquête, mais d'une enquête publique, parce que c'est une soirée historique. C'est un attentat politique, un attentat terroriste qui a eu lieu visant la première ministre du Québec avec des motivations politiques sur une personnalité politique. Puis le travail policier a été raté. Je veux dire, c'est pas, tu peux pas passer l'éponge là-dessus. Et là, eux, en faisant leur poursuite, ben, leur avocate a demandé, parce qu'il y a eu un rapport d'enquête interne à la SQ, et elle l'a demandé, pour constater que c'était du gros n'importe quoi, que le rapport, quand on s'est mis à questionner les gens, OK, mais qui a écrit le rapport? Comment ça a été écrit? On s'est rendu compte, on a mis le crayon dans les mains de quelqu'un, on lui a dit quoi écrire. Que c'est loin, loin, loin d'être chic, tout ça. Alors, c'est vraiment pour l'histoire du Québec, là, un épisode mal géré du début à la fin, qu'on n'a jamais voulu aborder sérieusement, qu'on n'a jamais voulu enquêter sérieusement. Et donc, une décennie plus tard, c'est à travers un procès civil, une poursuite, qu'on en apprend davantage sur ce qui s'est vraiment passé.
Ouais, puis c'est peut-être le meilleur moment aussi pour commencer à tirer des leçons de ce genre d'événement au ouais, moment
mais,
où
mais
on
ça,
a...
Mais ça, je pense qu'on les a déjà... Au niveau policier, je pense plus ça... Ben, là, il faut dire qu'il y a...
On n'a plus le choix. On est à un niveau où les menaces envers nos policiers, nos élus...
Ça n'aurait pas pu se produire
sont...
à la dernière élection. Là. Ça, non. On se comprend. Il y avait non. de la sécurité. C'était même pas comparable.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Une drôle d'histoire fait surface aujourd'hui qui concerne une infirmière d'un CHSLD de Longueuil au centre d'hébergement du Chevalier de Lévis. Infirmière qui est suspendue 3 jours sans salaire en pleine pénurie de main d'œuvre comme d'habitude en termes là d'effectifs infirmiers.
Quand on lit ça, on se dit ben là, elle a dû maltraiter un patient, négliger de donner des soins essentiels,
donner
etc.
Donner de mauvais médicaments, voilà. Il doit avoir quelque chose de grave. Mais
c'est pas ça.
Mais non, dans ce cas-ci, elle est suspendue sans salaire parce qu'elle a mangé une toast au beurre de pinot,
oh.
Mario. Et pas n'importe quelle toast au beurre de pinot. Ce qu'on comprend, c'est que c'est des tranches de pain, de la nourriture qui est réservée habituellement aux résidents. On a des tranches de pain comme ça où il y en a qui est faim, qu'on peut leur donner, qu'on peut faire des toasts comme ça.
Mais elle aurait pas pu prétexter qu'elle l'avait emprunté puis ramener une tranche de pain de chez elle le lendemain.
Écoute, ça aurait peut-être été une solution. Ça aurait peut-être évité justement cette suspension. Mais la dame en question, qui est une jeune employée, fait que 2 ans d'ancienneté, a reçu une lettre qui est datée d'hier et dans laquelle vraiment, là, dans la lettre de suspension,
non, c'est
on
les gros
épargne
mots,
pas,
là.
Ben oui, on parle de conséquences négatives importantes sur la réputation de l'établissement, sur sa crédibilité professionnelle, manquement grave à vos obligations de loyauté et d'honnêteté. Ce que l'infirmière dit, c'est, ben, j'avais mal à l'estomac, j'avais pas eu le temps de déjeuner avant de venir travailler. J'ai pris une toast, comme ça que je me suis fait, puis ma journée continuait. Ses collègues disent, ben, là, sûrement mieux opéré comme ça, avec un ventre plein qu'un ventre vide aussi.
Mais, non, mais le point, c'est que dans le secteur public, il y a tellement d'affaires qui arrivent, puis c'est tellement compliqué de sanctionner, puis souvent on passe l'éponge sur un paquet d'affaires, ou à la limite on va mettre une petite lettre au dossier, comme je la pogne pas que dans le cas d'une infirmière, tout à coup, on prenne le mort aux dents, et pour une tranche de pain, on fasse un pareil dossier, le dossier disciplinaire, aucune excuse possible, on peut pas dire, regarde, là, paye-nous 25 cents pour la tranche de pain, on ramène une tranche de pain demain. Hey,
un avis verbal, peut-être, ça aurait
été... Non, là, c'est l'artillerie lourde, la grosse affaire, et la suspension 3 jours, qui fait que durant ces 3 jours-là, on sait pas trop qui peut la remplacer dans l'état actuel des pénuries de personnel.
Ben, son manque de bras partout, et donc le fait qu'elle soit absente, ben, ça va donner un stress supplémentaire à ses collègues qui sont sur place. Et là, ben, la jeune employée, elle, pense même démissionner. Là. Comme je le disais, ni plus ni moins, elle pense même démissionner parce qu'on l'a traité de cette manière-là. Alors, si on perd quelqu'un dans le réseau de la santé, dans le réseau infirmier, alors qu'on tente tellement d'obtenir du personnel puis de la main-d'œuvre, ça risque d'être une gaffe comme ça de ressources humaines, Mario, qui va peut-être faire jurisprudence. Là. On va sûrement peut-être regarder ça comme cas après.
Qui va peut-être faire jaser aussi à chaque fois qu'on va parler de pénurie d'infirmières dans les prochains jours.
Le ministre de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a dit aujourd'hui envisager toutes les avenues pour que le Québec économise son énergie alors qu'une pénurie d'électricité qui se dessine à l'horizon. A parlé aujourd'hui de nouveaux termes, la sobriété énergétique. C'est ce qu'il avait vraiment aux lèvres en parlant qu'un projet de loi serait déposé en ce sens en 2023. Il veut vraiment analyser la tarification dynamique là, lorsqu'on constate que l'électricité coûte plus cher, par exemple, dans certaines périodes de pointe. Même chose pour baisser le chauffage des maisons. maison, par exemple, lorsqu'on n'est pas là pendant la journée. Bref, veut qu'on instaure au Québec des habitudes. On est tellement habitué d'être des grands consommateurs d'électricité, de pas la payer si cher que ça, qu'on n'y fait pas trop attention, de tenter maintenant de réduire un peu notre consommation personnelle.
Faudra surveiller comment ça va se faire, mais c'est certainement beaucoup plus logique d'aller dans cette direction-là que ceux qui préconisaient de geler les tarifs d'électricité. Là, je comprends que politiquement, c'est populaire de geler les tarifs, mais on est dans une période où l'électricité fait de l'énergie. Écoute, en France, là, cet hiver, ils se demandent comment ils vont chauffer les écoles. Ils demandent aux gens, là, les appartements, les blocs de logement, tout ça, c'est 19 degrés Celsius. On met un maximum de chauffage. Tu sais, l'électricité est rendue quelque chose de précieux sur Terre. On veut plus produire de l'énergie avec les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc. Alors nous, on a de l'électricité. On va toujours rester des privilégiés par rapport aux autres. On va toujours payer beaucoup moins cher que les autres, etc. Mais de là à dire qu'ici, on gaspille de façon éhontée, il y a comme une limite, d'autant plus qu'on peut la revendre à bon prix. Donc moi, je suis prêt à ça. Puis des fois...
C'est des petites habitudes, là, partir sur la vaisselle en allant se coucher, par exemple.
C'est ça. C'est des petites choses là, à l'échelle des sacrifices qui nous sont demandés. Et puis les nouveaux compteurs intelligents, c'était un de leurs buts, là. Permettre la tarification dynamique, permettre... Et ce serait parfaitement logique de dire, mais l'électricité entre 17h et 19h, elle coûte tel prix du kilowattheure, puis entre 19h et 21h, un autre prix, puis entre 21h et minuit, un autre prix, puis en pleine nuit, encore moins cher. Et bon, là, c'est à chacun ensuite de ça, de s'accommoder, puis... Tu sais, c'est... Parce que c'est ça qu'elle vaut. Quand l'hiver, quand il fait vraiment froid, puis qu'on achète de l'électricité là, dans les périodes de pointe, bien, on la paye plus cher.
Oui, et le ministre Fitzgibbon par le même coup là, a décidé de parler également des nouvelles avenues énergétiques du Québec, a dit qu'on n'essaierait pas d'installer de nouveaux barrages, finalement on n'en construirait pas de nouveaux du côté d'Hydro-Québec tant qu'on n'aurait pas tenté de miser tout d'abord sur l'éolien, surtout l'éolien dans le Grand Nord du Québec. On dit qu'il y a des régions dans lesquelles on pourrait installer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éoliennes qui pourraient venir compenser un grand manque à gagner du côté d'Hydro-Québec. Prenez exemple sur le Danemark, lui qui puise la moitié de son énergie dans l'éolien. Ouais.
Par contre, si on regarde les chiffres que donnait François Legault dans son discours inaugural, moi, je pense que ça... On veut montrer... En fait, je pense que ça, on est dans la réconciliation avec la présidente d'Hydro-Québec et on veut montrer qu'on n'est pas dans la... C'est qu'on n'est pas dans l'idéologie de faire des barrages à tout prix, mais pour arriver aux quantités d'énergie... J'écoutais parler le ministre Fitzgibbon. Ça va en prendre des éoliennes là pour faire le genre de quantité d'électricité dont François Legault parle. Il parle d'un demi Hydro-Québec...
Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'ils veulent aussi améliorer les installations hydroélectriques qu'on a déjà, qui sont pas extrêmement optimisées. Ça aussi, c'est un point. Avant d'en construire d'entièrement des nouvelles, il y a des nouvelles turbines depuis les années qui sont parues, qui sont beaucoup plus efficaces, par exemple.
Donc, avec la même puissance hydraulique, on peut faire plus, fabriquer plus, produire plus d'électricité. Là.
Exact.
Tout savoir en 24 minutes.
Alors qu'on est en train de terminer là, le rapport qui s'écrit en ce moment du commissaire Paul Rouleau sur la commission sur l'état des mesures d'urgence par rapport au convoi de la liberté, le soi-disant convoi de la liberté qui a paralysé en février dernier le centre-ville d'Ottawa. Mais il y a des hauts fonctionnaires de la capitale fédérale qui se préparent, Mario, à une édition 2023, le convoi de la liberté 2.0, un événement qui semble s'organiser et qui voudrait, selon son organisateur, devenir annuel. C'est du moins ce qu'on peut lire et entendre dans la déclaration Facebook de James Bowder, qui est un Albertain, qui est le fondateur du groupe d'influence Canada Unity, qui lui veut refaire cette manifestation-là chaque année à Ottawa au mois de février. Et là, c'est pas une petite fin de semaine, Mario. Du 11 au 28 février prochain, c'est ce qu'il veut faire. Une espèce de grande foire où on va avoir des jeux gonflables pour enfants, des amusements et... Évidemment, des discours anti-gouvernementaux qui vont être entendus un peu partout. Sauf que du côté des forces policières, on les attend de pied ferme. Il y a déjà des rencontres, déjà des réunions qui s'organisent pour tenter de se préparer à un possible convoi 2.0 de cette manière-là. Déjà que la rue devant le Parlement...
Il n'y aurait plus de cause. Là. Ce serait en général pour chialer contre le gouvernement.
Il y en a beaucoup qui considèrent là-dedans, Mario, puis je vais faire tout de suite mon meilleur coup. Je suis dans certains de ces groupes-là qui se préparent.
Tu es abonné.
Je me suis abonné. Je veux voir ce qui se dit.
Suivi de tous les complotistes d'Amérique, tu as inclus ceux-là.
Je les ai mis dans ma petite liste et... Il y en a qui considèrent que le combat n'est pas encore terminé, même si les mesures sanitaires sont toutes levées, là, toutes celles qui étaient en place fin 2021. Ben, pour la liberté en général, Mario, pour obtenir justice pour ce qui s'est passé. Donc, le fait que maintenant les mesures soient enlevées, évidemment, il ne parle pas d'une voie monolithique. Là. C'est pas tout le monde qui a la même conviction d'y aller. Mais il y en a qui veulent justement prouver que ben ils ont eu tort de mettre des mesures sanitaires. Et même si elles sont enlevées, ils veulent obtenir justice pour les avoir déjà eues.
Ah, tu comprends? Okay.
Donc veulent okay, c'est pas okay. Une vengeance, mais une espèce de redresser
des excuses,
les torts.
Un redressement des torts.
Exactement. Okay, okay. Donc on s'y attend
la
quand
question,
même.
La question c'est une fois parce que c'est une chose que quelques leaders disent ça, mais une fois que les gens, la population ne vit plus les conséquences et qu'il n'y a plus vraiment de mesures, est-ce qu'ils vont vraiment être capables de générer une mobilisation du même genre? Ça c'est une autre, ce sera à voir.
La décision de la Cour suprême du Canada dans le cas de Mike Ward et de Jérémy Gabriel a contraint la Commission des droits de la personne à fermer 194 dossiers, dont près de tout croire encore qui contenaient des propos racistes. Ce qu'on explique, c'est que l'arrêt Ward, qui a été fait en Cour suprême, maintenant, dans ce cas-ci, on ne peut plus là rapporter les propos qui ciblent un motif de discrimination. Par exemple, origine ethnique, langue, orientation sexuelle, handicap. On ne peut plus faire, avec seulement ces propos-là, une plainte à la Commission des droits de la personne. On doit désormais démontrer qu'il y a eu un préjudice qui va au-delà du droit et de la dignité de l'individu visé, donc qu'il y a un préjudice non pas personnalisé, mais vraiment là qui a un effet propre sur le tiers. Donc c'est ce qu'on veut aller chercher avec ces propos-là. Il faut établir qu'il y a vraiment une conséquence. Par contre, il faut comprendre, les plaintes de discrimination en matière d'emploi, logement, actes juridiques, services publics, tout ça fait faire des plaintes comme à l'habitude. La commission est là pour ça, mais il y a quand même un changement là, auprès de certains propos qui peuvent être rapportés, faire une plainte seulement, et puis maintenant. Donc c'est 194 dossiers dont on dit à 73% des cas, c'était sur des propos racistes, ben ont dû être fermés. Donc c'est une conséquence peut-être qui était inattendue un tout petit peu du jugement de la Cour suprême.
Ouais, qui paraît, mais en fait, est-ce que la Commission des droits de la personne, c'est une bonne question, est-ce que la Commission de la personne juge des propos? Parce que techniquement, des propos calomnieux, des propos haineux, des propos faux là, qui attendent à la réputation, t'as des tribunaux sont là pour ça. Là.
Oui.
T'sais, tu peux être poursuivi au civil pour ça. Est-ce que c'est à la Commission des droits de la personne? Est-ce que ça devient une discrimination? Parce que c'est un peu ce que la Cour avait dit, là, que la Cour avait dit si Jérémy Gabriel avait poursuivi en fonction d'une justement là, t'sais, d'un libelle diffamatoire.
Ouais, diffamation.
Ou, diffamation. Mais... Là, on aurait pu il aurait pu avoir gain de cause. Mais en fonction de la Commission des droits de la personne, c'est ça que la Cour avait dit là, la dernière étape. En fonction de la Commission des droits de la personne, on pouvait pas considérer que c'était une discrimination comme telle. Alors que, par exemple, te faire refuser un emploi.
Mais non, mais là,
ça, c'est de la discrimination pure. Oui. Alors que l'autre, c'est un propos qui peut être inacceptable s'il est prononcé dans un média, s'il est prononcé sur une place publique. Là, tu peux mesurer, c'est-à-dire c'est de la diffamation, il y a un dommage qui a été fait, et c'est ça, c'est des choses qui sont mesurables devant un tribunal civil.
Ouais, et maintenant, faudra donc mesurer, même devant la commission comme ça, qu'il y ait un dommage, justement, ou qu'il y ait un impact qui soit tangible sur la personne qui reçoit des propos pour que la plainte maintenant soit acceptée.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Dans les affaires judiciaires, l'ex-chef du Parti québécois, André Boisclair, s'est vu refuser une première demande de libération conditionnelle. Et maintenant, s'en est vu faire refuser une deuxième. Il a tenté, en fait, de faire renverser la première décision au comité d'appel. Et ça n'a pas fonctionné. On se rappellera qu'il a une peine de 2 ans moins 1 jour depuis l'été pour 2 dossiers d'agression sexuelle. Et ce qu'on dit du côté de la commission, c'est que M. Boisclair n'aurait pas assez cheminé dans sa détention. Il a porté la cause en appel par la suite. Et là, un comité de 3 membres a refusé de renverser la décision. Et ce qu'ils disent, c'est que le désaccord, c'est pas un motif en soi de révision. Pas parce que M. Boisclair n'est pas content.
C'est comme s'ils disent, il n'y a pas d'argument ou il n'y a pas détecté une faiblesse en droit ou une faiblesse dans le jugement précédent. Il n'est juste pas d'accord. Mais là,
c'est sûr.
Le désaccord n'est pas un motif d'appel.
Mais si c'en était un, je pense que tout le monde, tous les prisonniers qui veulent le sortir en libération conditionnelle au monde,
je suis pas d'accord.
Serait jamais d'accord et ce serait pas un motif parmi tant d'autres. Donc André Boisclair qui va rester derrière les barreaux pour l'instant. Il n'était pas le seul nom connu, Marion, on va dire ça comme ça, à se représenter devant les tribunaux. Simon Houle, ça te dit quelque chose?
Ça, c'est l'ingénieur du Centre du Québec, là, de la Mauricie.
Exactement. Simon Hull, c'est cet homme là qui avait obtenu une absolution conditionnelle très controversée à l'été dernier. Cet ingénieur qui, après jugement, donc avait obtenu cette absolution-là puisqu'on avait dit qu'il devait voyager pour son emploi, lui qui avait
et qui n'a pas compris que quand une absolution conditionnelle controversée comme ça, voit ça comme une chance, là, pas à peu près, là, tu comprends? T'es le survivant, t'es le chanceux survivant d'un écrasement d'avion. Là, recommence.
Ouais.
Et recommence.
Recommence et recommence pas de la mauvaise manière. C'est ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il est de retour en cour au palais de justice de Saint-Jérôme. Il est accusé de pas avoir respecté les conditions de sa probation puisqu'il aurait empoigné les fesses d'une femme lors d'un séjour à Cuba. Ce qui était bien évidemment dans ses conditions de pas refaire ce genre d'attouchement-là. Il était représenté par son avocat, n'était donc pas présent sur l'endroit, mais ici, il est trouvé coupable de bris de probation, pourrait perdre complètement cette absolution conditionnelle. Il va être de retour en cour en février prochain. C'est à parier quand même que ce sera un cas là, judiciaire qui va être assez suivi puisque ça avait soulevé vraiment là, la grogne
ouais, mais
ici
là,
au Québec.
Je veux pas être plate, là, mais je veux dire, c'est comme dans les motifs. Là, son absolution avait fait réagir. Il y a beaucoup de gens qui étaient pas d'accord, mais dans les motifs qui justifiaient, c'était cette notion de première offense sans antécédent et de la nuisance que ça aurait créé à son travail. J'ai hâte de voir ce que le juge va dire pour un retour en cour dans ces circonstances-là. Là.
Le monde.
Alors, dans mon suivi des complotistes de ce monde, Mario, il y en a beaucoup dans mon assiette cette semaine, et à commencer par Alex Jones, complotiste américain notoire, qui a été condamné, on se souviendra, à verser là, près d'1,5 milliard de dollars après avoir nié pendant des années le massacre de 2012 de l'école de Sandy Hook, dans lequel 20 enfants et 6 adultes ont été tués. Je rappelle les faits rapidement, Monsieur Jones, sur sa plateforme Infowars, une émission qu'il produit sur Internet, a clamé à de nombreuses reprises que c'était les acteurs qu'il n'y avait pas vraiment personne qui avait été tué dans cette fusillade-là, que c'était un montage mis en scène pour mieux contrôler les armes à feu aux États-Unis. Et les parents des enfants qui ont été tués, les familles ont été harcelées pendant des mois et des mois et des mois par les suivants de Alex Jones. Et donc, bien qu'il l'ait reconnu
eux couraient après les parents pour les écœurer, les accuser justement d'être des comédiens. Ben...
Imaginez, votre enfant s'est fait tuer dans une école, puis vous faites appeler, harceler chez vous, partager votre adresse. Ces gens-là ont vécu l'horreur et maintenant, mais après avoir ces sentences-là d'1,5 milliard de dollars, Alex Jones déclare faillite, a transmis une requête en ce sens au tribunal des faillites. Et si la justice avalise, eh bien, la procédure va permettre de geler ses actifs pour empêcher leur saisie parce qu'il aurait, on parle, là, entre 1 et 10 millions de dollars d'actifs. Là, mais c'est très, il y a beaucoup de spéculation entourant tout ça, mais évidemment, on parle de près de 10 milliards là vraiment en tout de dettes qu'il aurait. Donc c'est énorme. Donc déclare faillite et on verra ce qui va se passer dans le cas d'Alex Jones, lui qui poursuit son émission, Mario.
Ah oui, continue.
Non seulement il poursuit, mais on en a parlé un tout petit peu hier. Il y a eu une entrevue controversée. Kanye West, quelqu'un d'autre qui fait énormément jaser par les temps qui courent. Et a lui-même
dit... J'ai lu ça. Alex Jones était découragé de Kanye West. Là, entre malade, là.
Ah, ben, Kanye West, qui vraiment ne va pas très bien, a commencé à faire l'apologie du nazisme sur les ondes de l'émission d'Alex Jones.
Exprimer son admiration pour Hitler.
Admiration pour Hitler. A dit que c'était des gens qui avaient fait des grandes choses. Il a fallu qu'Alex Jones intervienne pour dire que les nazis étaient quand même des criminels et des gens qui étaient pas très bien. Bref, ça va vraiment pas bien. Si même que aujourd'hui Kanye West, son compte a été de nouveau suspendu par Twitter, même si, on le sait,
la nouvelle liberté de Twitter, mais là,
il s'est mis à publier hier et aujourd'hui là des images de croix gammées entrelacées dans une étoile de David. D'ailleurs, Mario, j'ai fait mes petites recherches, c'est le symbole des Raéliens, ça.
Ah oui.
Oui, absolument, l'espèce de swastika, la croix gammée, qui maintenant est attribuée aux nazis, mais qui est beaucoup plus vieille que ça. Entremêlée dans une étoile de David, c'est le symbole des Raéliens. Qu'est-ce qui faisait à publier tout ça? Excellente question, mais ça a été la goutte de trop pour Twitter, pour Elon Musk, qui ont décidé finalement de suspendre son compte là, pour des appels à la haine. Ça a provoqué vraiment des réactions un peu partout dans le monde. Joe Biden a appelé lui-même aujourd'hui les responsables américains à dénoncer haut et fort l'antisémitisme et le rappeur Kanye West. Donc pour que ça se rende jusqu'au président américain, c'est quand même majeur. J'en profite pour souligner qu'un salon de tatouage à Londres qui a décidé d'offrir une nouvelle promotion Tous ceux qui ont des tatouages de Kanye West, vous pouvez aller gratuitement les voir.
Pour les faire enlever.
Les faire enlever, recouvrir, changer et autres. Eux vont vous aider là-dedans. Une procédure qui coûte à peu près 2 500 $.
Mais il y a des tatous de Kanye West?
Ouais, ouais. Comme de toutes sortes d'artistes, j'imagine. Des gens qui ont une certaine admiration. Bon, disons que ces temps-ci, ça fait plus trop l'unanimité d'avoir ça sur ton bras ou tes fesses.
C'est une bonne idée en partant. Bon, je suppose que je vais me taire.
En terminant, Mario, il y a une action collective, et celle-ci également est énorme, 27 milliards de dollars, qui est déposée par les survivants de la tuerie dans l'école Uvalde au Texas. Et là, c'est la ville, la commission scolaire, les services de police et même des policiers eux-mêmes qui sont visés par ce recours. C'est évidemment des parents d'élèves de l'école primaire, Rob, qui...
Pour le manque de diligence à entrer dans les lieux, à reprendre le contrôle de l'école.
73 minutes se sont écoulées avant que les policiers qui se massaient presque au-dessus d'une centaine autour de l'école finissent par intervenir dans les classes alors que le tireur faisait feu sur des élèves. 19 enfants qui sont morts, deux membres du personnel également pour un total de 21 décès dans cette histoire. Et là, vraiment, là, c'est les parents des enseignants, des élèves, des membres du personnel qui se trouvaient dans l'école, qui font partie des demandeurs. Et comme on a étayé dans les derniers mois vraiment l'incompétence des services de police du Uvalde, puis des gens autour, disons que ceux-ci vont vraiment se retrouver dans l'eau chaude et que 27 milliards de dollars, c'est pas des pinottes.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.